Alain Damasio, bonjour. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Vous êtes auteur, écrivain de science-fiction. Vous êtes l'auteur de deux romans et de plusieurs nouvelles. Je ne sais pas, je ne les ai pas comptabilisées, mais...
Ouais, une quinzaine peut-être, pas énorme. Ouais.
Les deux romans ont eu pas mal de succès, ont même dépassé un peu le cadre des fans de science-fiction. Le premier, c'était La zone du dehors, hein, que vous avez écrit quand vous aviez genre 22 ans, c'était en 99, c'est ça?
Non, je l'ai fini en 95.
Ah ouais. Mais il est sorti...
il est sorti plus tard.
C'était
écrit entre 92 et 95. Ouais.
D'accord. Il est sorti plus tard, il a même été réédité en 2007, enfin
ouais,
voilà. Et l'autre qui avait bien marché aussi, qui a eu un succès et de librairie et critique, c'était La Horde du Contrevent, qui est sorti en 2006. Et depuis, ben, vous travaillez sur plein de projets, mais surtout sur un roman dont on attend impatiemment la sortie, mais ça va venir, qui s'appelle Les Furtifs. Mmh. On en parlera peut-être plus tard. Et vous êtes aussi, on appelle ça scénariste, enfin vous écrivez des bibles narratives pour...
Oui, j'adore dire, je suis maître de l'univers. Non, c'est-à-dire que je crée des univers narratifs, effectivement, qui servent après pour des jeux vidéo ou pour des projets transmédia, où on bâtit une sorte de matrice de récits.
Vous avez il y a un jeu vidéo dont vous avez écrit la bible narrative qui est sorti, qui a eu, il me semble, un prix au Paris Games.
Tout à fait.
Voilà, ouais. Qui s'appelait Remember Me.
Remember Me.
Voilà, auquel j'ai jamais joué, pardon, mais paraît-il que c'était drôlement bien. Pour définir votre, parce qu'il y a plusieurs chapelles dans la science-fiction, comment vous définiriez la vôtre? Fait de la soft science-fiction.
Oui, moi j'aime bien le côté. Les Américains, pour eux, c'est facile parce qu'ils disent hard science ou soft science pour dire sciences humaines et sciences dures. Et donc, soft science fiction, c'est vraiment la science-fiction de sciences humaines, c'est-à-dire la science-fiction dont l'objectif et l'enjeu est d'extrapoler les tendances sociales, sociologiques, psychologiques des technologies, quoi, dans le quotidien et dans le futur, quoi. Donc, ce qui nous intéresse, c'est ce que ça fait à l'humain, voilà. Mm. Et pas le space opéra, pas la robotique pour la robotique ou les soucoupes volantes. C'est vraiment, une science-fiction qui est très spéculative, qui est très orientée et vers le présent et vers des enjeux, des enjeux humains, quoi.
Mémorize. Partagez en toute confiance votre mémoire. Vous êtes entre les meilleures mains. Libérez-vous de la peur. Sensen, j'ai tout ressenti.
Scandale à la Bastille. L'administration vient d'avouer la fuite de la criminelle connue sous le nom de Nilin.
Nilin, tu m'entends? Est-ce que ça va?
Qui êtes-vous?
Je m'appelle Edge. Nous sommes à Neo Paris.
Pourquoi nos ennemis ont-ils effacé ma mémoire?
Tu étais une révolutionnaire. Une chasseuse de souvenirs, Nilin. La meilleure.
J'ai tout donné sans rien demander, Franck.
Alex!
Nous pouvons encore gagner cette guerre, Nilin. Cette fois, nous allons abattre Memorize.
Soumets-toi. Adore-moi.
Tous les erroristes comptent sur toi, Nilin. Libère ta mémoire.
Je vois désormais la vraie nature de cette dictature consensuelle.
tu m'as fait.
Rien ne m'empêchera d'accomplir ma mission.
Et qui se nourrit, même c'est quasiment, enfin, dans vos livres, vous les citez, qui se nourrit de philosophes bien connus. Voilà.
Ouais, moi, ma source d'inspiration numéro un reste philosophique, ouais. C'est très clair. Quand les gens me demandent, est-ce que c'est un roman, un film, très honnêtement, pour moi, c'est vraiment, je vais chercher au plus concentré, quoi. C'est-à-dire que c'est petit shot de sirop comme ça, très dense, et pour moi, c'est la philosophie qui apporte ça, vraiment. Mes grosses influences, ouais, ça reste Deleuze, ça, c'est clair, l'influence, je pense, numéro un, maintenant. Bah, avant Deleuze, bah, il y a eu Nietzsche et Spinoza qui ont beaucoup inspiré Deleuze. On dit même que Deleuze opère un peu la synthèse entre les deux, donc c'est une grosse source d'inspiration aussi. Bergson, plus récemment, Sloterdijk, pour prendre des gens contemporains. Baudrillard à une époque, voilà, et puis Michel Foucault sur le premier, sur la zone du dehors, c'est Michel Foucault a été la clé, parce que c'est Survie et punir qui sert de socle à la réflexion. Donc ouais, carrément, moi je dis parfois que l'ordre du contrevent, c'est une novélisation de Mille plateaux de Deleuze et Guattari.
Ça fait rire tout le monde, mais
c'est pas loin d'être vrai, quoi. C'est vraiment pas loin d'être vrai, parce que c'est ma source principale d'inspiration, c'est ce qui a nourri le livre de part en part pendant 3 ans.
Et donc, en fait, vous dites que vous êtes venu à la science-fiction, enfin, à la littérature par la politique. Je crois que vous avez un parcours, enfin, vous avez fait HEC.
Ouais, l'équivalent, l'ESSEC, mais c'est pareil.
Ouais, l'ESSEC.
Grande école du capital, ouais.
Ouais, c'est ça. Et disons que vous vous êtes pas senti tout à fait à l'aise dans ce milieu-là. Et puis, vous avez dévié vers la science-fiction. Et alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, enfin, moi, j'ai lu beaucoup de science-fiction quand j'étais petite. Je sais pas, G. Wells, Ray Bradbury, tout ça. Et puis, à un moment, passé l'adolescence, j'ai dit bon ben, je vais arrêter parce que c'est pas sérieux. Je vais lire des essais. Et en fait, je me rends compte que c'était une erreur parce que finalement. La science-fiction, c'est très sérieux et d'après vous, c'est même le meilleur médium pour penser la politique, pour l'anticiper, pour la penser.
Moi, je crois vraiment profondément la science-fiction aujourd'hui, vraiment, enfin surtout cette science-fiction-là qui est orientée, j'ai envie de dire, sciences humaines. Pour moi, on est dans un âge d'or absolu de la science-fiction pour une raison super simple, c'est que pour moi, ce qui fait le cœur, la colonne vertébrale de la science-fiction, c'est de repenser notre rapport au monde, notre rapport aux autres et le rapport aussi qu'on a avec soi-même. Donc, ce triple rapport-là, de le repenser à l'aune des paradigmes technologiques. C'est-à-dire comprendre comment la technologie, comment un outil technologique qui arrive, qui émerge, typiquement Internet, le smartphone, ça peut être les robots, etc. Mais là, sur des ce que j'appelle les machines-monde, parce que Internet, c'est une machine-monde dans laquelle on vit, on circule, on drague, on pense, on se déplace, etc. Comment ces machines-monde-là ont révolutionné bah, tout, quoi. La façon dont on se séduit, dont on se fait des amis, dont on se rencontre, dont on parle, dont on crée, dont on, tu vois. Et du coup, la science-fiction, dont c'est le métier, quoi. Donc, dont c'est le cœur de métier, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, c'est d'interroger ce bouleversement des rapports à partir d'un paradigme technologique. Bah, elle est chez elle parce que c'est précisément ce qui se passe maintenant. On est dans un monde anthropotechnique. C'est-à-dire, on est dans un technococon massif dans lequel la plupart de ce qu'on fait est médié par un objet technologique, quoi. Tu vois, si tu réfléchis dans une journée, à quel moment tu n'es pas en phase ou tu n'es pas en corrélation avec un objet technologique, tu verras que tu n'as quasiment aucun moment. Déjà, 98% des gens ont un portable, ont sur eux en permanence. Donc, sinon, tu es devant l'écran, sinon, tu vois, sinon, tu as ton radio réveil, etc. Donc, la technologie est constamment avec toi, t'accompagne constamment, et à portée de main, à portée d'œil, à portée de doigt, etc. Donc, si tu veux, voilà, on est dans un monde anthropotechnique, quoi, tu vois. On dit l'anthropocène, mais c'est le technocène aussi, quoi, tu vois. Et du coup, bah, c'est l'âge d'or de la SF parce que nous, c'est précisément ce qu'on fait, c'est interroger ce rapport-là à la technologie. Donc, on a un coup d'avance presque, tu vois. Ouais. On est au cœur des enjeux, en fait.
Mais alors, pourquoi est-ce que la science-fiction, pourquoi est-ce qu'il faut la prendre au sérieux et pourquoi est-ce que ça marche pourquoi ne pas avoir choisi la science-fiction plutôt que l'essai politique? Pourquoi est-ce que c'est plus efficace et on le voit, enfin, ça se tous les jours, on s'en rend compte, c'est que, disons qu'aujourd'hui, voilà, on vit l'état d'urgence, enfin, la manière dont marche le monde. Il suffit de regarder ce que les gens citent, ce à quoi les gens se réfèrent, ils se réfèrent à des grandes œuvres de science-fiction, que ce soit Orwell ou Huxley, ou enfin voilà que c'est on cite beaucoup plus ces gens-là que je sais pas quel expert, bouquin d'expert de terrorisme ou même Jacques Attali.
Complètement.
C'est heureux d'une certaine manière.
Déjà, bon, la vérité c'est quand t'es artiste, tu choisis pas ce qui t'appelle. Il y a quelque chose qui t'appelle, tu sais pas pourquoi, il y a un appel d'air et tu te retrouves dans le champ de la science-fiction. Moi, je lisais pas spécialement la science-fiction, j'étais pas un fan de science-fiction. Pourquoi j'ai fait la science-fiction, je sais absolument rien. Simplement, ça m'a appelé et c'est devenu la forme sous laquelle, effectivement, je pouvais penser politiquement ce que j'avais à dire. Après, tu réfléchis, parce que ça fait 25 ans maintenant que je fais la science-fiction, donc tu commences à avoir un retour ou un regard en te disant « mais qu'est-ce que j'ai fait depuis 25 ans ?» Tu t'interroges et tu te rends compte que ce support-là, ce médium-là, enfin en tout cas ce champ thématique-là, c'est un des plus libres qui soit, peut-être même le plus libre qui soit. Voilà. C'est-à-dire qu'en science-fiction, tu peux absolument tout faire, quoi. Tu peux faire de la poésie, tu peux faire du fantastique, tu peux faire de l'imaginaire pur, tu peux faire du thriller, il y a des thrillers SF, tu peux faire surtout de la spéculation. C'est-à-dire que tu peux spéculer et tu peux faire des blocs de philo qui font 15 pages comme je le fais dans la zone dehors. Et c'est parfaitement assimilable. En plus, j'ai envie de dire, on a le public et le lectorat pour ça. Une chose qu'on ne sait pas, par exemple, c'est que le lectorat de science-fiction, c'est quand ils analysent, quand ils font leur fameuse étude marketing, etc., ils se rendent compte que c'est peut-être le lectorat le plus ouvert qui existe. C'est des gens qui généralement regardent des séries télé, vont au cinéma, sont des gros consommateurs culturels, vont au théâtre, lisent les autres genres, etc. Mmh. C'est tout sauf un milieu fermé, tu vois. C'est des gens qui, au contraire, ont une ouverture assez, assez grande, quoi. Et quand tu côtoies les écrivains de la science-fiction, c'est aussi extrêmement intéressant de voir qu'il y a très peu d'égocentrisme dans ce milieu-là. Tu vois, moi, c'est arrivé de faire des salons en littérature blanche, je peux te dire que tu comprends ce que c'est l'égocentrisme, quoi, tu vois. Mais en milieu SF, les gens sont assez ouverts parce qu'ils sont, voilà, ils absorbent ce qui se passe, ils regardent la société, ils s'interrogent, ils regardent comment la technologie fonctionne. Il y a une ouverture naturelle, moi, je trouve. Je trouve que c'est un milieu extrêmement agréable et extrêmement pas prétentieux là-dessus. Et qui témoigne de cette ouverture maximale à l'état du monde, quoi. Donc pourquoi la SF ? Voilà, parce que la liberté était maximale et puis l'autre raison, c'est que je pense que j'étais un philosophe raté, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que j'adore la philosophie, je pourrais peut-être écrire un essai, tu vois, vraiment en suivant beaucoup. Mais au fond, j'étais pas assez fort, pas assez structuré, peut-être pas assez conceptuellement solide pour vraiment rentrer dans l'essai, quoi. Tu vois. Et aussi, peut-être, il y a un petit côté pervers ou un petit côté manipulateur ou plus ample de la littérature qui est que si tu fais un livre, si tu fais un essai ou un livre philosophique, globalement, tu vas t'adresser à un champ qui est le champ conceptuel, quoi, tu vois. Donc, chez les gens, tu vas alerter ce champ-là, qui est un champ rationnel, qui est un champ spéculatif, etc. Et tu vas assez peu toucher le champ affectif, assez peu toucher le champ perceptif. Tu vas pas modifier beaucoup les perceptions ni l'affect, quoi, tu vois. Et en littérature, tu as accès aux trois champs. Tu vois, c'est la force de la littérature, c'est que, tu vois, si quelqu'un fait de la musique, ok, il est dans le champ affectif, il mobilise des affects, des émotions, des sensations, etc. Il va avoir beaucoup plus difficilement la possibilité d'accéder aux concepts, par exemple, de véhiculer des concepts par la musique, c'est possible, tu vois, mais t'es en bordure de ce que la musique peut, quoi, tu vois. Alors qu'en littérature, t'accèdes à tout, quoi. Voilà, tu peux accéder à un champ sensuel, à un champ émotionnel, à un champ affectif, à un champ perceptif, à un champ conceptuel. T'as le droit à tout, tu peux tout utiliser. Et la SF étant par définition un domaine où tu as le droit de tout faire, tu vois, c'est la règle du jeu. Et ben fabuleux, tu vois, fabuleux. Donc on peut y aller et puis.
Alors ça c'est le propre de la littérature, c'est-à-dire je vais faire un personnage auquel les gens peuvent s'identifier, etc.
Ouais,
mais il y a l'efficacité de la science-fiction, c'est tu le disais, vous le disiez, pardon. je sais plus dans une interview, mais que ça permettait de décaler le quotidien, en fait, en décalant un tout petit peu ou un peu beaucoup, de permettre aux gens de prendre qu'en exagérant un phénomène, de faire prendre conscience aux gens que finalement c'est ce qui vivait tous les jours. Parce que la littérature.
Bien sûr, mais ce que fait pas la littérature blanche, c'est-à-dire que l'apport de la science-fiction là-dessus, c'est que tu défamiliarises les gens. C'est-à-dire que tu les sors de leur quotidien, de leur routine de pensée, de leur routine de perception, tu les arraches à ça, tu les sors d'eux-mêmes. Et moi, j'adore cette expression, je suis hors de moi, quoi, tu vois. Il m'a rendu hors de moi, tu vois. En fait, c'est une très belle expression, quoi. Et c'est ça, tu essaies de rendre les gens hors d'eux, quoi, tu vois. Tu les pousses à l'extérieur. Et en les décalant, en les mettant dans une zone qu'ils ne connaissent pas, tout d'un coup se met en marche tout un système de réflexion sur qu'est-ce qu'est le présent. Moi, j'aime bien faire la comparaison avec entre les voyages organisés et le voyage sac à dos où tu pars, tu vois, et tu te démerdes dans le pays, quoi, tu vois. C'est exactement la même chose. Pour moi, la littérature blanche, c'est un voyage organisé, tu vois. C'est-à-dire que tu vas dans un monde que tu connais, tu as une histoire d'amour à Paris, tu sais ce que c'est un café, tu sais ce que c'est une voiture, tu sais ce que c'est une histoire d'amour, etc. Donc, tu es dans un milieu connu où l'effort spéculatif ou même intellectuel que tu dois produire pour rentrer dans ce monde-là, il est extrêmement faible, extrêmement facile à produire. Tu rentres dans le livre très facilement. En SF, c'est comme si on t'avait largué, t'as pas de voyage réalisé, t'as pas de guide, tu sais pas où t'es. On t'a balancé au fin fond de l'Atlas marocain ou au fin fond, tu vois, je sais pas, à Phnom Penh, et puis tu te démerdes, quoi, tu vois. Mm. Et parfois, on fait exprès, en plus, de jeter là-dedans sans argent, avec rien, et tu vois. Et t'apprends, et tu te rends compte qu'au début, c'est difficile, tu souffres un peu, t'as envie de lâcher le livre. Et une fois que t'as réussi à t'acclimater un ou deux jours, tu vois, t'es dans le pays, et après, t'as une fierté de le lire. T'as une fierté de comprendre les codes, t'as une fierté de t'opérer, t'as une fierté de rencontrer des êtres que t'aurais jamais rencontrés, exactement comme dans un pays où t'as ramé les premiers jours, et puis après, tu te dis, le Vietnam, c'est fabuleux, j'ai réussi, tu vois.
Ouais, voilà. et puis d'en
donc
sortir.
Donc pour moi, c'est ça, quoi, tu vois. Mm. Et c'est vrai que le lectorat de SF a ce côté sac à dos, ouais, tu vois, Lonely Planet, quoi, tu vois, c'est... Il y a un côté comme ça, il faut accepter d'être paumé, quoi, tu vois.
Oui, d'être paumé et du coup de se familiariser avec le livre qu'on est, enfin avec l'univers qu'on est en train de découvrir. Et puis ouais. Après, ce qui est marrant, c'est une fois qu'on en sort, c'est l'univers dans lequel on est.
Et du coup, prend un écho très différent. Enfin, tu vois, c'est
plus familier, ce qui n'arrive pas.
Mais tu vois, typiquement, je prends la nouvelle So Far Away par exemple, où tu vois, c'est une ville de phare où les gens ne communique que par des rayons lumineux, par du morse, mais uniquement par la lumière. Pour moi, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que la plupart de nos vies aujourd'hui, enfin, moi, tu vois, je suis à Marseille, je suis tout le temps sur mon mail ou sur Internet. C'est-à-dire que je suis dans mon phare. Mon phare, simplement, la lumière que j'émets, c'est du texte, de la vidéo, du son généré par Internet. À d'autres phares qui sont aussi en France, tu vois, mais on n'est pas ensemble dans le même espace et on ne fait que s'envoyer des signaux lumineux, etc. Tu vois, cette capacité de l'ASF à tout d'un coup métaphoriser ou rendre réel ou incarner quelque chose qui est de l'ordre, comme ça, du cognitif. C'est une vraie force. Et du coup, si je pense que si tu lis la nouvelle, à un moment donné, forcément, à un moment donné, tu te dis, mais ça te renvoie à ta situation, quoi. À ta position, à ton phare intérieur, comme émetteur, mais aussi comme récepteur de la lumière des autres, etc. Mm. Et comment t'échanges et comment, quand la nappe est saturée de lumière, parce que tout le monde émet en même temps, à n'importe quel moment, et que tu sais plus trier la lumière qui t'arrive, comment tu vis, quoi, tu vois. Et là, je trouve que l'ASF permet par ces décalages-là, et parfois ces décalages poétiques, So Far Away, on pourrait dire, c'est pas de la science-fiction, c'est du fantastique ou de la.
Ouais.
Mais c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est les décalages imaginaires qui permettent de revenir aux situations.
Et ce que ça permet, et peut-être on va juste résumer après une autre nouvelle qui est issue du même recueil, histoire de donner un peu de chair à ce dont on parle, c'est ce que permet la SF, c'est de finalement tester des hypothèses jusqu'au bout, tester des modes d'organisation sociopolitique, des scénarios d'échecs, et puis du coup de les avoir en tête une fois qu'on les a lus, quand ce que anticipaient les bouquins arrivent dans la vraie vie. Et là, il y a des centaines d'exemples. Par exemple, dans la nouvelle qui s'appelle « Au parleur », donc qui est dans le recueil « Aucun souvenir assez solide », c'est l'histoire de la privatisation du langage. Et l'idée t'est venue, quand France Télécom est devenue Orange.
Et Orange a racheté la marque Orange. Ouais,
voilà. Et par exemple, là récemment, Bercy ne s'appelle plus Bercy. Enfin, ça a des implications aujourd'hui avec la privatisation des noms de stades, des parcs, Et donc dans la nouvelle, tout le langage est privatisé, appartient à deux grandes corporations.
Ouais, tout le langage public, c'est ça qui est très malin aussi, c'est que s'il faisait ça, il ne pourrait pas le faire sur évidemment les communications interpersonnelles parce que ça demanderait beaucoup trop d'énergie pour extraire les royautés que généraient les discussions. Mais par contre, tout le langage public étant par définition accessible, tu peux faire payer des royautés sur le lexique et donc ils rachètent le lexique et ils font payer. Mais vraiment, c'était un choc. Voilà, c'est des déclencheurs d'exaspération. Au moment donné, le France Télécom, qui était quand même une marque hallucinamment diffusé avec un taux de reconnaissance, je sais pas, de 95%, etc., décide, voilà, et ils ont eu raison en plus, d'un point de vue marketing, tout ce que tu veux, de racheter Orange. C'est qu'Orange en anglais, c'est pareil qu'en français, etc., et en plus avec la couleur. Moi, j'adore l'orange, c'est ma couleur préférée, quoi, tu vois. Et j'avais l'impression qu'on me volait et la couleur, si tu veux, et le fruit en même temps, quoi, et le mot, quoi, tu vois, que je peux plus utiliser le mot orange sans faire référence, tu vois, comme on peut plus utiliser Hermès sans faire référence, tu vois, à la marque ou Vinci sans penser à des parkings, tu vois. C'est à gerber, tu vois, ce monde, quoi, tu vois. Vinci, quoi, Léonard Vinci. Non, les parkings, bon. Tu vois, Et cette préemption des mots, cette surutilisation des mots, etc., que leur permet la puissance, voilà, la puissance médiatique et publicitaire, voilà, c'est un viol, quoi. Quand t'es écrivain, c'est un viol. On te voile quelque chose, quoi, tu vois. Et du coup, tu...
Et il y a un autre exemple que je me suis pris dans la gueule, c'était, j'entendais Macron, notre charmant ministre de l'économie, qui a eu une idée géniale, qui disait, voilà, bon, la nouvelle économie, Uber, c'est quand même, bon, il y a des petits défauts, mais c'est quand même, ça permet à des milliers de jeunes d'accéder à l'emploi. Le problème, c'est que il y a pas de contrat, donc ces jeunes ne peuvent pas avoir de crédit à la banque. La banque ne leur accorde pas de crédit parce qu'ils ont pas de CDI. Or, il faudrait pouvoir prendre en compte ces gens, les taxis, les chauffeurs Uber sont notés par les clients, par les patrons. Il faudrait obliger les banques à prendre en compte les notes obtenues par le client Uber, par le chauffeur Uber, pour avoir, c'est-à-dire est-ce qu'il a bien mis sa cravate. Et du coup, ça m'a fait penser au classe dans la zone du dehors. Je te laisse expliquer ce que c'est le classe.
Le classe, c'est un système de classement généralisé de la population qui est fondé sur l'idée. Là, c'est pareil, c'est une extrapolation de sciences humaines au départ. Je développais ce que tout le monde voit et qui n'a fait que s'accroître et devenir hypertrophié, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans un système d'évaluation à tous les niveaux, non seulement à l'école, mais en entreprise, mais dans les services publics, mais dans les projets, etc. Et maintenant, en inter-individuel, comme ils disent, en C2C, c'est à consommateur, entre les pairs, on se note entre nous sur 5, on a des notes moyennes, etc. Donc, cette espèce de sporulation de l'évaluation à tous les niveaux. Et j'en ai fait un système total, quoi. C'est le totalitarisme de l'évaluation, c'est-à-dire que tous les deux ans, en fait, tu es noté. Tu es noté par tes parents, tu es noté par tes enfants, tu es noté par ta compagne, tu es noté par tes collègues au boulot, tes supérieurs, tes inférieurs, les gens que tu côtoies, voilà, tes amis, etc. C'est-à-dire que tout, c'est ça qui est génial, c'est qu'au lieu d'avoir juste une évaluation du haut vers le bas, tu as une évaluation horizontale, tu as une évaluation d'en dessous, et tu te retrouves dans un système où tu n'es plus que ta note, quoi, tu vois. Et du coup, dans le classe, le système fait que ton nom change, ton nom et la suite de lettres correspondant à ton classement, quoi. Sachant que le classement numéro 1, c'est A, numéro 2, B, numéro C, etc. Jusqu'à les 5 lettres, tu vois, QZ, machin, imprononçable. Et donc, tu as des noms imprononçables et tu deviens ton classement, tu vois. Ton classement définit ce que tu es comme citoyen, quoi. Et tu peux considérer ça comme une méritocratie absolue, tu vois, puisque, voilà, c'est les notes et données par tout le monde, quoi. Tu vois, il y a même l'arbitraire, il se dissout dans le fait que tout le monde te note. Et je trouve que c'est exactement ce qui se passe, tu vois, notamment avec les notations Internet. Là, tu parles des chauffeurs Uber, mais c'est partout pareil. Dès que tu rentres dans un système peer-to-peer, tu vas être noté par les autres et tu as un système disciplinaire qui se met en place et de contrôle qui est lié à cette évaluation. Et surtout, il y a une quantification de lettres qui en résulte. Donc, moi, c'est marrant, tu vois, sur la zone, ma plus grande fierté dans ce livre, c'est les clusters, tu vois. Je trouve que j'ai raté un truc absolument fondamental et je m'en veux toute ma vie d'avoir raté ça, c'est que j'ai pas compris que l'enjeu n'allait plus être les caméras, même les caméras hyper développées, même les tours panoptiques des citoyens qui permettent de regarder dans n'importe quel coin de la ville, qui était une sorte d'extrapolation de la tour panoptique de Bentham vue par Foucault, tu vois. J'ai raté un truc fondamental, c'est que la caméra, on allait l'avoir dans la poche, quoi, tu vois. Et que la géolocalisation allait être beaucoup plus importante que la caméra elle-même, quoi, tu vois. C'est-à-dire que le fait de pouvoir tracer n'importe quel déplacement d'un individu qui s'auto-trace parce qu'il a accepté d'avoir un portable sur lui et qu'il est géolocalisé en permanence, tu vois. Ce truc-là qui est un coup de génie, si tu veux, de l'auto-servitude, quoi, tu vois, de la servitude volontaire maximisée. J'ai pas eu l'idée, tu vois. Et ça, je me dis.
En 95, voilà. Non, j'ai pas eu l'idée.
Putain, c'était le début d'Internet, j'ai pas, voilà. Mais voilà, donc le réel a été 10 fois plus inventif et intelligent que ce que j'avais posé moi dans la zone, parce que la zone c'était l'extrapolation d'une société de contrôle, c'est qu'est-ce que... Et là voilà, on est passé le stade, on est société de traces maintenant, société de kleps, moi j'appelle ça de chien, quoi, tu vois, où on passe son temps à renifler des traces, quoi. Et nous on émet de la trace, on fait caca partout, on pisse partout, et puis il y a des gens qui ont des grosses boîtes de big data et puis qui dont le métier
de ramasser nos crottes
et de renfaler ces crottes et puis d'en faire du data mining, etc.
Ouais.
Et ça, j'ai raté ça. Ouais.
D'accord.
Donc, mais le classe, ouais, voilà, par contre, c'est.
Le classe, par contre, ouais.
Ça reste intéressant et ça reste.
Ouais.
Et. Plus en plus d'actualité, on va dire, tu vois. Mais...
Alors, du coup, la SF anticipe, elle permet de tester ces scénarios, de les pousser jusqu'au bout, ça sert un peu d'alerte, voilà, les gens.
Ouais, bien sûr, il y a un rôle d'alerte. La SF a toujours eu ce rôle-là. très très important, le rôle d'alarme, d'alerte, de mise en garde.
Mais il y a ce que tu appelles la bataille de l'imaginaire, c'est-à-dire que la SF se nourrit de ce qu'elle voit, des innovations technologiques pour extrapoler. Mais toi, tu es persuadé aussi, enfin et beaucoup le sont, que finalement la SF a elle-même de l'influence, nourrit elle-même. Les recherches, en gros, que la SF change le monde. Est-ce que y a une préemption de l'imaginaire par la SF et par quel genre de SF qui
Ce qui est marrant, c'est que le combat de l'imaginaire, il est plus entre les auteurs de SF et le champ publicitaire pour moi. En tout cas, le champ des multinationales, quoi. C'est un combat contre les grands groupes capitalistes type Google ou Facebook, enfin les GAFA, tu vois, ouais. Google, Apple, Facebook, Amazon par exemple, qui préemptent une certaine vision du futur. Et la préemptent, eux, de façon publicitaire, avec un martèlement indéfini des messages, etc. Mais si tu veux, ils mettent en place, et c'est vachement net d'ailleurs sur Apple, c'est-à-dire ils mettent en place un mode de vie futuriste ou futurisé, soi-disant enviable, en tout cas désirable, et qui préguide la façon dont toi, tu vas... Non seulement consommer, évidemment, mais imaginer ta vie future. Imaginer comment tu vas conduire ta vie future, quoi, tu vois. Et par rapport à ça, nous, ça nous fait extrêmement peur. Tu vois, on a créé un collectif de science-fiction qui s'appelle Zanzibar. Et pour l'instant, il y a 9 auteurs de science-fiction, quoi, tu vois, dedans. Et on aurait pu l'appeler Alter Futur, on aurait pu l'appeler... On a exploré plein de noms, on a bien déliré, etc. Mais surtout, c'était de dire, voilà, réouvrons les futurs qu'on est en train de nous préempter, qu'on est en train de nous canaliser. Qu'on est en train de nous pré-scénariser ou nous pré-formater, quoi. Et c'est très puissant, quoi. Et moi, il y a quelque chose qui me frappe beaucoup, c'est de me dire, bon, voilà, si tu prends l'existence normale d'un individu aujourd'hui, tu vas passer, je pense maintenant, plus de 50% de ton temps éveillé dans un univers virtuel. C'est-à-dire à travers un écran, et on a, voilà, tout le monde a 3, 4, 5 écrans, c'est soit devant la télé, soit devant le jeu vidéo, soit devant ton... ta tablette et tout ça. Et donc, si tu veux, tu consommes aussi énormément donc, de données virtuelles, mais aussi énormément de culture, tu vois, avec des films, des séries, des BD, des spectacles, etc., des livres. Et donc, toute une partie de ton activité cognitive, mentale, se passe dans un champ imaginaire, tu vois, et constitue presque la dominante de ton activité, quoi, tu vois, en tout cas, ton activité spirituelle. Du coup, la guerre des imaginaires est un enjeu majeur, quoi, tu vois, parce que c'est là que se joue ce qui va faire les comportements futurs, ce qui va faire la façon dont on vit dans le futur, quoi. Et du coup, moi, je me sens en tout cas une responsabilité super forte en tant que science-fiction, où le futur, voilà, c'est un peu quand même notre domaine, et c'est un peu ce qu'on essaye d'anticiper, de deviner, d'éviter que, voilà, que ça soit préempté d'une façon qui ferme. Voilà, tu vois,
Mais c'est-à-dire que tu penses que le fondateur de Uber ou d'Amazon ou celui qui a eu l'idée de se noter entre pairs, il a peut-être lu la zone du dehors, et tu penses que tu as pu à un moment qu'un auteur de science-fiction peut préformater et donner une idée à un chercheur.
Bien sûr, dans les deux sens, d'ailleurs, malheureusement, dans les sens négatifs aussi, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'une idée qui, pour moi, est complètement dystopique, c'est-à-dire une idée complètement à fuir, tu vois, qui fait extrêmement peur, peut être récupérée comme quelque chose d'enviable ou d'utilisable pour... Donc là, il y a toujours un côté, tu vois, et c'est la liberté de la littérature là-dessus, hein, tu vois. Ça peut être utilisé à l'envers, quoi, tu vois. Mais du coup, tu peux effectivement influencer. Moi, je pense, ouais, tu peux... Bon, déjà, en recherche, c'est clair, des chercheurs... des désirs de recherche, tu vois, on peut pousser des désirs de recherche, notamment dans tout ce qui s'est fait sur les IA, à mon avis, dans le champ de l'ASF.
Sur l'intelligence artificielle.
L'intelligence artificielle a poussé beaucoup de chercheurs, à mon avis, à explorer ça, à croire à l'émergence possible d'une intelligence, tu vois. Tu vois, je prends un manga comme Ghost in the Shell, je pense qu'il a énormément influencé les gens sur l'idée que de l'océan de données allait émerger naturellement, instinctivement, si tu veux, une intelligence artificielle, tu vois, qui allait... Et ces imaginaires-là, qui sont des imaginaires complètement mythologiques, en fait, tu vois, influencent énormément même le désir de recherche, le désir de jeunes de 17 ans d'aller dans la recherche sur les IA, quoi, tu vois. Donc ça, je pense que ça a toujours été le cas, tu vois. En robotique, moi, je suis convaincu que ce qui s'est passé dans les années 50, tu vois, avec Asimov sur la robotique, etc., a donné une génération qui a envie de faire des robots, enfin, tu vois, qui continue à rêver à travers les trois lois de la robotique d'Asimov, et qui, c'est clair, hein, non, mais ça, c'est comme le neuromancien, a défini une sorte d'imaginaire de l'internet, quoi. Tu vois, c'est.
Mais alors, du
c'est évident. Ouais, ouais, c'est
si,
évident.
Si vous, auteur de science-fiction, vous avez une telle responsabilité, pourquoi est-ce que il y a si peu, enfin, il y a un courant optimiste dans la science-fiction,
ouais.
Mais il est quand même assez marginal. Enfin, moi, j'ai
je sais pas
souvenir d'avoir lu. Pourquoi est-ce que vous testez pas plus les scénarios où c'est les gentils qui gagnent à la fin et enfin même pas qui gagnent au début. Et puis on imagine un monde.
Moi je fais des livres où il y a toujours une, en tout cas des figures de résistance très fortes. Et qui
non, mais il y a de la résistance, mais c'est toujours une résistance par rapport à un. Je sais pas, il y a un bouquin qui s'appelle Écotopia, qui est souvent cité, c'est, qui a été écrit dans les années 70, où l'univers qui est installé, c'est un univers où le temps de travail a été réduit, c'est une démocratie quasiment parfaite, où toutes les énergies sont propres, où il n'y a plus de rapport d'argent. Et en fait, au sein, l'histoire se construit au sein de cet univers-là, c'est-à-dire il y a pas un, c'est pas le début n'est pas l'effondrement généralisé du monde et puis il y a un héros qui essaye de survivre, enfin les comportements barbares, enfin
c'est donc, pas si, du post-apo.
Si vous avez cette responsabilité-là, pourquoi vous essayez pas de donner une orientation un peu plus positive, ou je sais pas, imaginer des économiques fiction où on pourrait imaginer un autre système économique en changeant juste quelques paramètres.
Ça se fait. De toute façon, moi je suis pas sûr que tout soit, enfin tu vois, tout soit négatif. Je pense à Bordage, il définit des lignes spirituelles, il définit des choses positives aussi dans le dans Bernard Jeannin aussi. Enfin tu vois, je crois pas du tout. Je pense à David Calvo, je pense à Léo Henry. Il y a beaucoup d'auteurs de science-fiction qui déploient soit des univers poétiques, soit des univers qui sont pour moi positifs. Enfin tu vois, sur le moi dans mon travail, effectivement généralement je pose des dystopies, mais pour les retourner, pour les combattre, pour moi la positivité elle est dans le combat, quoi, tu vois, elle est dans la capacité à se battre et à résister, tu vois, et ça aboutit à des choses. La zone dehors, on termine sur des communautés, il y a 5 communautés, il y en a qui ont du mal à survivre, il y en a qui se mettent à merder, mais il y en a qui marchent aussi, tu vois. Donc non, je suis pas sûr. Ça a été beaucoup un courant de la SF, effectivement, un courant très critique, un courant très pessimiste, un peu nihiliste, un peu dystopique pour le plaisir de... Après, ce qu'il faut dire d'un point de vue purement technique, c'est qu'effectivement, au niveau scénaristique, c'est difficile de créer des tensions dramatiques si t'as pas un ennemi suffisamment puissant, quoi, tu vois. Donc, si t'as pas un système ou une structure suffisamment puissante. Donc, c'est difficile, toujours, le genre utopique pur est très difficile parce que, généralement, tu manques de tensions dramatiques, quoi, tu vois. Tu manques d'opposition à la... Tu vois, au héros, et c'est ça qui va créer la densité de ton histoire et la tension, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a toujours tendance à extrapoler l'aspect négatif, quoi. C'est très difficile de faire une utopie qui ne pose pas un enjeu, tu vois,
de
lutte, quoi, tu vois.
Non, mais oui, c'est difficile de faire
un film sur le bonheur, tu vois, parce que tu me disais, mais pourquoi il n'y a pas des films entièrement et purement sur le bonheur? Parce qu'il n'y a pas d'histoire, enfin, tu vois, enfin, où il y a difficilement une histoire, voilà. C'est des vrais enjeux.
Mais en tout cas, si on croit à cette responsabilité, et qui à mon avis est énorme, des auteurs de science-fiction sur comment on imagine le futur, d'ailleurs cette responsabilité-là, ou en tout cas cette utilité sociale des auteurs de science-fiction, est utilisé par les grandes entreprises. Je pense à un projet dont on a parlé tout à l'heure de la boîte de processeurs Intel, qui a lancé un grand projet où elle demande en gros à des auteurs de science-fiction de réfléchir en discutant avec les chercheurs, le département recherche et développement d'Intel, de réfléchir à ce que pourrait être, à mon avis, ça leur sert à imaginer des microprocesseurs. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, est-ce que tu pourrais imaginer de collaborer avec une...
Moi, ça m'est arrivé, on m'a demandé, c'est l'Orange Lab, c'était à Grenoble, je crois, il m'avait demandé, j'ai refusé. Parce que je considère que dans ces cas-là, tu es soumis à une commande qui fait que tu vas alimenter un système que tu combats par ailleurs, quoi, tu vois. Et ils sont très forts pour te vendre le truc en te disant, mais au contraire, on est très ouvert, on a besoin de gens comme vous qui résistent, qui pensent autrement, machin. Mais bon, c'est comme toujours dans le système capitaliste, c'est-à-dire que c'est un système qui est profondément endogénéisant, c'est-à-dire qu'il récupère la matière, il métabolise la matière extérieure qui lui est étrangère il l'assimile et il en fait ce qu'il est lui, c'est-à-dire du capital et de l'argent. Et t'as beau être à la marge, t'as beau être à l'extérieur, etc. De toute façon, sa puissance de récupération est tellement vaste, quoi, est tellement forte, est tellement agile aussi aujourd'hui, quoi, vu la puissance dont il dispose, que de toute façon, même si tu te positionnes en contre-culture ou en opposition, tu vas être métabolisé, quoi, tu vois. Et du coup, tu vas servir finalement à l'opposé de ce que tu voulais faire. Donc, moi, je mets pas le doigt là-dedans, ça c'est clair. Je refuse, comme je refuse les conférences, des boîtes vraiment qui sont dans le. Et les gens comprennent pas, se vexent énormément d'ailleurs. C'est assez marrant les réactions parce que tout d'un coup, tu mets les gens face à leur choix idéologique, quoi, tu vois. Et ils supportent pas parce qu'ils se considèrent comme ouverts, tu vois. Ils se considèrent comme ouverts et ils se considèrent pas comme l'incarnation d'un système. Or, de fait, ils agissent à l'intérieur de ce système et au nom de ce système. Et quoi qu'ils en pensent, ils sont des acteurs de ce système. Donc, ouais, c'est intéressant. Mais c'est intéressant. Et c'est une demande de plus en plus forte. Et on pourrait faire pas mal d'argent, nous, auteurs de SF, dans ce côté-là de futurologie, d'anticipation.
Ouais.
Parce qu'on a deux qualités qui sont extrêmement valorisables pour eux. C'est, un, on est créatif, ce qui, dans les boîtes, est extrêmement difficile à trouver. Les gens ne sont pas créatifs, ils ont la tête dans le guidon, ils sont normés, ils sont calibrés. Et c'est très difficile de sortir une idée out of the box chez eux, tu vois. Et voilà. Et deux, on a une capacité à anticiper le futur qui est la clé de l'avantage différentiel, enfin de l'avantage concurrentiel par rapport à la concurrence, tu vois, par rapport aux autres, quoi. Dans la compétition économique, celui qui a un coup d'avance, il a des chances de gagner, quoi, tu vois. Et comme nous, notre métier, c'est d'anticiper, putain, oui, venez, quoi, tu vois, on est forcément une ressource, quoi, tu vois. Mais ça joue pas le jeu, parce qu'en France, en plus, on a une science-fiction vraiment de gauche, voire d'extrême gauche, majoritaire. Et c'est très intéressant, d'ailleurs, de voir que je connais quasiment aucun écrivain de science-fiction français qui est de droite, quoi, tu vois. Mais c'est intéressant à réfléchir à ça, tu vois. C'est pourquoi, tu vois.
Et c'est pas partout pareil. Aux États-Unis.
Non, aux États-Unis, c'est différent, par exemple. Aux États-Unis, t'as des vrais auteurs de droite. Dan Simmons, c'est un putain d'enfoiré de droite, quoi. C'est clairement, quoi. Ouais, il a dénoncé un Palestinien dans son université. Enfin, tu vois, c'est quelqu'un qui est odieux. Ouais, qui est odieux. Donc, et t'as des vrais trucs de hard science aux États-Unis, enfin Robert Heinlein et des gens comme ça, qui sont des gens de droite, quoi, tu vois. Enfin, c'est. Non, en France, c'est très particulier. Ouais, c'est. Mais ce serait intéressant. J'ai jamais creusé pourquoi c'est comme ça, mais de fait.
Ouais. Mais.
Et c'est plutôt même anard. Enfin, tu vois, il y a une structure anard, ouais. Communiste, très forte, quoi, tu vois. C'est.
Ça me semble normal, puisque. C'est quand même, c'est des intellectuels et que voilà, la tradition intellectuelle française.
Ouais, mais maintenant, toi, tu vois, bon, t'es des intellectuels de droite, machin.
Oui.
Mais bon, ouais, je sais pas. Ouais.
D'accord. Mais alors, donc, en gros, la philosophie qui est derrière le mec d'Orange Lab qui vient de voir en disant « aide-nous », c'est que, voilà, nous sommes producteurs des technologies et finalement, la technologie, on peut lui donner une impulsion positive ou négative. Mm-hmm. C'est selon, grâce à toi, elle sera positive. Or, toi, c'est quelque chose qui te tient à cœur, c'est de dire que, voilà, contrairement à ce qu'on pense et à ce qui nous est vendu, la technologie n'est pas neutre.
Elle n'est absolument pas neutre. Voilà. Je crois que le plus gros bullshit qui circule dans la sphère, pour moi, science-fictive actuelle et technologique actuelle, c'est de dire la technique est neutre, tu vois, la technologie est neutre. Je veux dire, ça, c'est vraiment... S'il y a une idée à battre en brèche, tu vois, c'est Nietzsche qui disait la philosophie, c'est nuire à la bêtise, quoi, tu vois. S'il faut être philosophe, c'est là-dessus, quoi, tu vois. C'est nuire à cette idée qui est une catastrophe intellectuelle absolue, quoi, et une connerie sans nom, quoi, tu vois. C'est vraiment... La technologie est tout sauf neutre, quoi, tu vois. Elle amène déjà, de façon consubstantielle, la technologie, comme toute technique, c'est une volonté de maîtrise du réel, maîtrise de la nature, maîtrise des gens, maîtrise de l'environnement. C'est-à-dire que l'acte de vouloir maîtriser ou contrôler ou gérer quelque chose est constitutif de la technologie. Tu ne fais pas un outil si tu ne veux pas que cet outil serve à contrôler quelque chose qui est extérieur à toi dans l'environnement. Donc, tu n'as pas besoin d'outil, quoi, tu vois. Donc, c'est toujours, au départ, et ça, c'est absolument pas neutre, une volonté de préhension, de pouvoir sur l'environnement, sur les gens, sur la société, sur, tu vois. Donc ça, c'est constitutif de l'acte même de produire de la technique, quoi, tu vois. Donc dire c'est neutre, tu vois, déjà, dire l'exercice de pouvoir, tu peux avoir des rapports totalement différents au monde. Tu peux avoir des rapports de contemplation, d'admiration, d'écoute, de réception, etc., tu vois. Or, la techno, c'est on prend un outil et on
recherche
agit sur
l'efficacité.
Le, voilà. Donc ça, c'est déjà un premier truc. Ensuite, c'est absolument pas neutre au sens où quand tu connais un tout petit peu la science, etc., tu vois que toutes les recherches scientifiques, pour pouvoir les lancer, il faut des financements. Pour avoir ces financements, il faut faire un projet qui détermine vers quoi tu veux aller, quoi, tu vois. Et ce projet, il n'est jamais neutre non plus, quoi. Et si tu veux être financé, tu le sais très bien, c'est soit l'État qui te finance, soit les entreprises privées. Les entreprises privées te financent si tu vas rapporter de l'argent, quoi. Donc, si tu crées une technologie qui est capable de rapporter de l'argent, tu vois. Donc, c'est absolument pas neutre non plus dans le développement technologique, tu vois. Alors, après, ils veulent faire croire Orange Lab, qu'on est ouvert, machin et tout. La finalité derrière, de toute façon, au bout, c'est de maximiser les profits. Donc, si tu agis à l'intérieur de ça, en plus, quand Orange Lab t'appelle, la vérité, c'est que tu rentres dans les cabinets d'acceptabilité. C'est-à-dire que leur problème, c'est comment rendre acceptable un certain nombre de technologies qui sont en train de mettre en place, qui sont déjà au stade de prototype.
Ça s'appelle comme ça,
c'est les cabinets d'acceptabilité. Ils le disent pas exactement comme ça, mais c'est comment rendre acceptable une technologie. C'était le cas sur les nanotechnologies, sur plein de choses où ils se rendent compte que le grand public a extrêmement peur et avec raison. Ils se disent comment on va rendre acceptable cette technologie auprès du grand public. Et la façon numéro un qu'ils envisagent, et ils ont raison, c'est le storytelling, c'est la narration, c'est raconter des histoires. Tu vois, parce que ça reste, ça conduit une... Et du coup, bah, là encore, les écrivains sont bienvenus dans ce type de pratique, quoi. C'est un... Mais donc, oui, l'absolue non-neutralité de la technique, ça, c'est évident, quoi, tu vois. Par contre, le boulot, justement, d'un auteur de science-fiction comme d'un philosophe, je trouve, c'est de se dire, à chaque technique qui arrive, c'est-à-dire, c'est pas être anti-techno, machin, c'est dire, moi, je dis aux gens, je dis, quand une technologie arrive, la question à se poser, pour moi, c'est qu'est-ce qu'elle vient ouvrir dans mon rapport au monde. Et qu'est-ce qu'elle vient fermer dans ce rapport au monde? Qu'est-ce qu'elle m'apporte, effectivement? Et qu'est-ce qu'elle me retire, tu vois? Qu'est-ce qu'elle accroît dans ma puissance? Et qu'est-ce qu'elle accroît dans mon pouvoir, tu vois? Et très souvent, les technologies qu'on nous amène nous donnent du pouvoir et diminuent notre puissance, tu vois? Moi, c'est quelque chose, en tout cas, moi, c'est ma perception, si tu veux. Je donne des fois l'exemple tout bête du GPS, etc. Tu vois, le GPS te donne un pouvoir fabuleux qui est orienté dans n'importe quelle ville inconnue, de savoir où tu es, d'aller de tel point à tel autre, etc. Et par contre, elle t'enlève la puissance naturelle de t'orienter dans une ville, de prendre des points de repère mémoriels sur où est-elle le café, où est-elle l'obélix, où est-elle l'avenue, où est la mer, etc. T'orienter avec le soleil, etc. Certes, on t'enlève beaucoup de pouvoir de te situer, de t'orienter, de te déplacer, etc. De te perdre aussi, tu vois, parce que de se perdre, c'est toujours intéressant. Tu découvres des zones que tu n'aurais pas pensé découvrir, etc. Le GPS te donne un pouvoir net. Tu vas d'un point A à un point B avec l'itinéraire optimal, tu vois. Donc, tu es très content d'avoir ce pouvoir et tu ne te rends pas compte de toutes les puissances intérieures cognitives que tu as besoin d'entraîner, en plus, que ça, on se rend pas compte, mais bon, le cerveau est un muscle, je veux dire. Si tu te délaisses constamment de ce pouvoir de t'orienter, de cette puissance de t'orienter, à la fin, tu sais plus t'orienter. Et t'as vraiment besoin du GPS, tu vois. Et il y a plein de domaines comme ça où le pouvoir est accru et la puissance, par contre, diminue, tu vois. Et c'est la puissance sans spinozisme, sans deleuzien, etc., qu'ils ont très bien défini, tu vois. C'est la capacité de, pour moi, je le dis, la capacité de faire, la puissance, la capacité, qu'est-ce que je peux faire, moi, directement, avec mon imagination, ma création, mes mains, mon corps, ma présence dans l'espace, tu vois. Ça, c'est la puissance. Et le pouvoir, c'est qu'est-ce que je peux externaliser ou déléguer à une machine ou à un outil qui va faire à ma place. Le pouvoir, c'est faire faire. La capacité de faire faire. Mais c'est pareil en point humain. Hein. Quand tu fais faire, tu as du pouvoir. Tu vois, voilà.
Ouais.
Quand tu fais toi-même, tu as de la puissance. C'est complètement différent. Et c'est une autre approche, quoi. Tu vois, ça, c'est...
Et aussi, contrairement à ce qu'on pense, on n'a pas la liberté d'utiliser ou pas ces technologies.
C'est-à-dire, ça c'est pareil, tu vois. Moi j'adore sur l'exemple du portable. Donc moi j'ai décidé à un moment donné, et très tôt, et je m'y tiens, et je sais pas combien de temps j'arriverai à tenir, etc. Parce que ça devient herculéen de pas avoir de portable, tu vois. Donc j'ai pas de portable. Donc j'ai décidé que l'injonction d'être joignable était une atteinte à ma liberté. Je ne veux pas être joint quand j'ai décidé que je ne dois pas être joint, tu vois. Je veux avoir des espaces, des bulles, notamment quand je monte à Paris, où je ne suis pas joint. Ni par mes enfants, ni par ma femme, ni par personne, tu vois. Je ne suis pas joint, je ne veux pas être joignable. Et je ne veux pas joindre non plus, tu vois. Je veux être face à la ville, face au monde, regarder les choses, les gens, être en face à face, vivre des rapports directs, sans avoir un portable qui me met dans une espèce de non-lieu, qui est entre l'espace de communication, l'espace réel, etc. Tu vois, tu fais ça, tu dis, bah tu vois, tu es libre, tu peux le faire, tu peux ne pas avoir pas. Oui, je peux avoir un portable. Ce que je ne peux pas changer, par contre, c'est qu'on est dans un monde où le taux de pénétration du portable, maintenant, est passé les 100%. Hein, les gens ont deux portables, donc on a plus de 70 millions de portables. Le taux de pénétration, je crois qu'il est de 95-98%, c'est-à-dire que c'est autant que l'eau potable, que la télévision, que le frigo, enfin tu vois, c'est-à-dire que ça devient un truc absolument hégémonique. Donc dans ce monde-là, il est considéré comme absolument normal que tu puisses être joint, tu vois. Et quand tu n'es pas joint ou pas joignable, tu crées de l'anxiété, tu crées de l'incertitude, quoi, tu vois.
Et de la méfiance.
Et de la méfiance aussi, quoi. Tu te dis, mais pourquoi il ne veut pas de portable? Il fait des actions terroristes, il fait des trucs bizarres, pourquoi il ne veut pas, tu vois. Et pourquoi il veut pas être joint, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Il est prétentieux, il est orgueilleux. Qu'est-ce que c'est que ce truc, la liberté? Tu peux, t'as qu'à éteindre ton portable, t'es libre, tu te décroches, quoi, tu vois? C'est malsain, tu vois, c'est malsain. Donc, t'es dans un monde où ne pas avoir de portable est malsain. Et ça, j'y peux rien, tu vois? Moi, j'ai juste ma liberté individuelle de dire, je veux pas de portable et donc de dire, ça dépend comment tu l'utilises. Non, tu vois? L'autre exemple, et on en parle jamais, mais Illich l'avait fait super bien, c'est la voiture, tu vois? Quand la voiture arrive, on se rend pas compte à quel point la voiture, elle a décidé de comment les villes étaient organisées. Le trottoir est une invention de la voiture, par exemple. Avant la voiture, il n'y avait pas de trottoir. Il n'y avait pas besoin de trottoir, parce que tu n'allais pas être écrasé au milieu de la route, tu vois. La voiture a inventé l'urbanisme, a inventé la ville, a inventé les liaisons entre les campagnes, a inventé l'auto, etc. Tu enlèves la voiture, tu n'as absolument pas la même architecture, le même urbanisme, la même organisation de l'espace. Tout change dans la ville, quoi, tu vois. Donc tu peux dire, moi j'ai pas le permis, tu vois, c'est encore un truc. Tu peux dire, mais de toute façon la voiture, tu peux, la voiture ça dépend comment tu l'utilises. Si tu conduis bien, tu feras pas d'accident.
T'es pas obligé de la prendre.
T'es obligé de la prendre. Tu peux ne pas avoir de voiture, t'es libre. Ouais, mais je changerai jamais le fait que constitutivement toutes les villes dans lesquelles je circule ont des trottoirs. Que je suis obligé de marcher sur les trottoirs quand il y a un feu rouge, je suis obligé de m'arrêter. Qu'il y a des zébras. Que l'espace urbain est coupé en permanence par la circulation des voitures. Que je peux pas me balader librement comme je me balade dans les calanques, c'est-à-dire dans un continuum de plaisir, tu vois. Je suis coupé en permanence par des feux rouges, des zébras, des coupures urbaines, des barrières, des endroits où je peux pas aller, etc. Tu vois. Et ça, ben voilà. Donc la technologie, là, évidemment, elle est pas neutre, tu vois. Ouais. Mais si tu veux, les gens, ils continuent à construire la technologie comme un marteau, tu vois. Je peux prendre le marteau et taper sur un coup, ou pas prendre le marteau. Mais c'est pas ça. C'est je veux dire, c'est des technologies mondes, quoi, tu vois. C'est des technologies dans lesquelles on vit à l'intérieur de ces technologies, tu vois. On est inclus dedans, tu vois. Elle est plus extérieure à nous, la technologie. C'est nous qui habitons à l'intérieur de la technologie. Donc, ça a plus rien à voir, quoi.
Et du coup, ce que tu disais au début, que c'était une époque bénie pour la science-fiction, parce que c'était ces machines mondes, etc. Est-ce qu'il y a eu une période, est-ce que la science-fiction a changé depuis l'apparition de des machines de troisième génération? En gros, oui, est-ce que le futur c'était mieux avant? Tu disais qu'il y avait on avait fini d'anticiper un futur très lointain, maintenant on se contentait d'anticiper à 10-15 ans. Et il y a quelqu'un qui a parlé beaucoup de comment on nous avait fait voler le futur et de comment la science-fiction avait géré cette arnaque. C'est David Graeber qui est un anthropologue qui a écrit des ouvrages sur la dette et qui, dans son dernier livre, parle de la bureaucratie et de comment la bureaucratie a transformé le monde et de comment la bureaucratie a transformé le futur. Et il dit la même chose que toi. Il dit, avant, les auteurs se permettaient même de donner des dates précises. C'était 1984, aujourd'hui, c'est fini, c'est un espèce de futur un peu flou. Pourquoi
Il y a plein de raisons à ça. Mais derrière, cette question, elle est très belle, elle est très complexe. C'est-à-dire, pourquoi on n'anticipe plus à 30, 40, 50 ans, etc. Je pense qu'il y a plusieurs raisons qui se conjuguent, tu vois. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que dans la création, en tout cas, contemporaine actuelle, en science-fiction française, en tout cas, même, je pense, en Angleterre et aux États-Unis, on ne fait plus d'extrapolation longue. Bon, il y a une première raison, c'est qu'on en a fait beaucoup et qu'elles se sont toutes révélées fausses quasiment, quoi, tu vois. Notamment, je te prends les extrapolations en robotique. Aujourd'hui, la robotique, très honnêtement, pour moi, c'est un échec, voilà. Alors, quand je vois les roboticiens, ils me disent, mais non, tu peux pas dire ça, machin. La vérité, c'est que voilà, c'est qu'on fait des petits robots un tout petit peu anthropomorphes, capables de mimer un peu les émotions humaines, avec des banques de dialogue pour te répondre un tout petit peu, qui aident les personnes âgées. Mais en vérité, ces robots, c'est extrêmement faible, ils sont capables de faire, quoi, tu vois, et physiquement, et j'ai envie de dire intellectuellement. Donc, même les IA de robots, elles sont hyper, hyper faibles.
Asimo pèse 48 kilos, c'est encore un enfant. Ses parents, l'entreprise Honda, ont mis le paquet sur les cours d'éducation physique. Asimo s'est déjà évité des êtres humains sur son passage. Il est même capable de reconnaître jusqu'à 3 voix en même temps. Il sert aussi du thé au lait dans un gobelet en plastique. Avant de présenter une vidéo à notre journaliste caméraman. Honda souhaite à terme qu'Asimo prenne son indépendance et guide les Japonais, par exemple dans les gares et les aéroports. Un robot d'1m30 pour accompagner, dit son créateur.
Cette petite taille a été définie pour ne pas effrayer les gens. Vous avez remarqué, 1m30, c'est la taille des enfants à la fin de l'école primaire. Tout ça est fait exprès. L'idée, c'est de communiquer, interagir avec son environnement et surtout avec les gens autour.
Asimo a été créé à la fin des années 90. Et ici, dans ce laboratoire de recherche, on nous dit que d'ici quelques dizaines d'années, tout au plus, Asimo sera présent tous les jours dans les rues du Japon.
L'IA, c'est la dernière mythologie à la mode. La vérité, c'est que les IA, on est extrêmement loin de toute intelligence véritable, tu vois. Et n'importe quelle personne d'intelligence moyenne est 1000 fois plus intelligente qu'une IA aujourd'hui. Et moi, je ne crois pas à l'IA. Je ne crois pas qu'il adviendra. Et j'ai plein d'explications philosophiques là-dessus, mais voilà, c'est un autre sujet. Je pense que l'IA est un bullshit total et est vraiment du domaine du mythe. On a besoin de ce mythe et pour plein de raisons. et faire croire à l'avènement d'une IA sentiente, intelligente, etc., ça permet d'acclimater les gens à obéir à un nouveau maître, etc. Notamment Google qui travaille énormément sur le big data et qui fait l'intelligence artificielle juste en ramassant du big data au maximum et qui fait simplement... Quand tu vois la traduction chez Google, c'est super intéressant le logiciel de trad. Le logiciel de trad, c'est un logiciel de brute force, quoi, tu vois, qui est totalement débile, qui ne fait que reprendre tout le corpus des textes traduits et qui dit, cette expression, on la traduit généralement par ça dans les textes, donc
oui,
ça doit être ça. Mais il n'y a aucune contextualisation, il n'y a aucune réflexion, et c'est pour ça que même aujourd'hui, tu prends le logiciel de trad, c'est n'importe quoi, tu vois, tu t'amuses à le faire, c'est juste rigolo, quoi, tu vois, mais ça ne peut pas traduire une phrase authentiquement comme n'importe quel traducteur peut le faire, quoi, tu vois, c'est juste de la norme qui est reconduite, donc c'est bête, c'est vraiment un système extrêmement bête, et d'ailleurs, les vrais traducteurs et les vrais informaticiens qui ont bossé sur le logiciel de traduction gerbe sur Google, tu vois, en disant, mais c'est juste de la masse, quoi, c'est juste de la traduction quantitative. Bon, bref, donc les IA, laisse tomber. Et du coup, donc voilà, les apocalypses nucléaires, etc., tout ça, oui, on a eu Fukushima, on a eu Three Mile Island, etc., mais il n'y a pas eu d'accident nucléaire, il n'y a pas eu de bombe qui, pour l'instant, a explosé, etc. Donc, tout un ensemble de situations n'a pas fonctionné. Donc, déjà, il y a une sorte de modestie qu'ont eu les auteurs de SF. Et ensuite, il y a la grosse raison qui est que l'explosion d'Internet a fait que on a maximisé l'accès au savoir, on a rendu ça pulvérulent, sporulent, c'est-à-dire qu'on a des savoirs, des données, des technologies, des prototypes qui sortent de partout en même temps, et que rien que connaître ce qui se passe, j'ai n'importe quoi dans le champ des caméras, tu vois, dans l'optique, tu vois, tu dis déjà, je vais me concentrer sur les caméras, ça te prendrait un temps absolument colossal pour le faire. Donc, qu'est-ce que tu vas y aller extrapoler? Déjà, il faut comprendre ce que le présent est, quoi, tu vois, il faut déjà être exhaustif sur ce qu'est le présent en termes de technologie de caméra, par exemple, tu vois, et rien que ça, c'est... Donc, du coup, tu peux pas aller très loin, quoi, tu vois. Et ça n'a pas intérêt d'aller très loin quand les technologies, en plus, changent extrêmement vite, quoi, tu vois. Donc, on revient à quelque chose de beaucoup plus intéressant pour moi, c'est on essaie, comme disait Gibson, on essaie d'identifier les schémas. C'est-à-dire qu'on essaie d'identifier ce qu'il se passe technologiquement aujourd'hui et comment ça modifie notre société. Je veux dire, la personne qui aujourd'hui pourra me faire une étude de l'influence du smartphone, par exemple, sur le champ de la séduction et de l'amour aujourd'hui, rien que ça, c'est une thèse extraordinaire et t'as pas besoin de la SF pour, tu vois. Déjà, comprenons ce qui se passe là-dessus, tu vois. Comment ça métamorphoser ça, tu vois, le rapport amoureux, tu vois. Juste ça, smartphone et rapport amoureux. Bon, c'est bon, tu peux faire 40 livres là-dessus, tu vois. Donc, pourquoi extrapoler? Qu'est-ce que va être le smartphone dans 10 ans? Quelle appli, etc. C'est gadget, on s'en fout, c'est pas intéressant, c'est pas la
science-fiction. Oui, de savoir si on va l'avoir...
Voilà, si va être militarisé, etc. Et ça vieillit, l'autre chose, c'est que ça vieillit très très vite. C'est-à-dire, quand tu fais de l'anticipation comme ça, au bout de 5 ans, ce que t'as anticipé, c'est juste ridicule, tu vois. Même les termes, même les trucs, enfin c'est ça, ça rime à rien, quoi. Donc
ça dépend après le téléécran,
Ouais, voilà, mais
c'est pas ridicule.
C'est pas ridicule, mais si tu veux, qu'est-ce qui est intéressant dans 84, c'est pas le téléécran, quoi, tu vois.
Ouais.
C'est l'idée d'une surveillance continue et permanente sur les gens, tu vois. Qu'elle passe par le téléécran ou par une autre technologie, on s'en fout, quoi. Le téléécran, ça paraît très dispendieux. C'est beaucoup plus subtil et intelligent de le mettre dans les smartphones, enfin tu vois.
Bon, on avance vite parce qu'on n'a pas tellement de temps. Pour en revenir à aujourd'hui et à ce qu'on pourrait, comment on pourrait analyser aujourd'hui grâce à la science-fiction, on vit depuis quelques semaines, près d'un mois, sous état d'urgence. La police perquisitionne, casse des portes, moleste des manifestants, les arrestations complètement arbitraires, enfin voilà. On parlait de 84, il y a ce dialogue entre Orwell, enfin c'est la lettre que Aldous Huxley envoie à Orwell en 49 après avoir lu 1984 et il lui dit oui voilà, votre livre est vraiment très intéressant mais je pense que c'est plutôt ma vision qui l'emportera, en gros on fera aimer aux gens leur servitude et qu'on aura...
Non mais il a raison, il est beaucoup plus moderne Huxley.
Ouais mais en même temps donc on n'aura plus besoin de la matraque, mais en même temps j'ai quand même l'impression que la matraque elle est là et que malgré tout ces anticipations sociopolitiques où c'était un pouvoir soft on n'en est plus là aujourd'hui.
C'est une très belle question et moi je pense que là tu vois c'est la question elle a été traitée magnifiquement par Deleuze là-dessus et notamment dans son livre sur je suis désolé je suis très universitaire mais dans le livre qu'il a consacré justement à Foucault, c'est-à-dire que si tu veux, quand tu lis Foucault, il faut revenir, je suis désolé, je fais un petit aparté, mais il définit trois régimes de pouvoir, quoi. Tu vois, il définit un régime de pouvoir féodal, un régime de pouvoir disciplinaire et un régime de pouvoir de contrôle, ou qui lui, il appelle le pouvoir de normalisation. C'est Deleuze qui amène le terme de contrôle, en le prenant à Burroughs et machin. Et il t'explique, par exemple, Foucault dit, bon, ok, régime féodal, le Moyen-Âge, etc. Il te dit droit de vie ou de mort sur les gens, tu vois. Le monarque, il a droit de vie ou de mort sur les gens. Mais un pouvoir qui est arbitraire, qui fonctionne par à-coup, qui n'est absolument pas continu, qui ne s'occupe pas de discipliner les gens, les paysans, il ne les discipline pas, il ne leur apprend rien, il ne les contrôle pas, etc. Simplement, il arrive, il prélève une dîme, il extrait de la valeur sur les productions, etc. Mais il ne se préoccupe pas absolument de contrôler les mœurs, ni d'éduquer les gens, ni de discipliner, ni de former, etc. Tu vois. Donc, c'est une espèce de pouvoir comme ça. Bon. Ce pouvoir féodal existait. Il existe encore aujourd'hui d'une certaine façon. Tu vois. Après, il dit, on arrive au disciplinaire, okay, 18e, 19e siècle, et là, on commence à avoir les usines, on commence à avoir ce qu'il appelle l'anatomopolitique, c'est-à-dire qu'on dit aux gens, vous levez le coude là, vous prenez la pièce, vous la mettez là, vous la percez. Pareil à l'armée, on explique aux gens comment épauler un fusil, comment tirer, machin. C'est-à-dire que tu as un enchaînement anatomique, comportemental qu'on te donne, qui est la discipline et qui fait que tu dois faire les choses d'une certaine façon, etc. À l'école, à l'usine, à l'hôpital, à machin. Bon. Ok, tu as ce système-là. Et puis arrive, après, milieu du 20e siècle, arrive le régime de contrôle où bah, les gens ont vachement résisté à la discipline, on ne supporte plus l'autorité, 68, tu vois, on ne supporte plus l'autorité, on ne supporte plus les chefs, on ne supporte plus les hiérarchies, on ne supporte plus d'être discipliné. Donc on ouvre le système, on le démocratise, on le libère, etc. Mais on obtient toujours des effets de pouvoir par le contrôle, en gérant, en regardant, en influant, tu vois, comme il dit, voilà, le nouveau verbe du pouvoir, susciter, suggérer, inciter, rendre probable, rendre plus ou moins probable, etc. Voilà, ça, c'est les trois régimes. Et ce que dit Deleuze, qui est génial, c'est qu'il dit, on peut voir ça chronologiquement, historiquement, en disant, ok, les dominants de pouvoir au Moyen-Âge, c'était le féodal, puis ensuite, ça a été le... Mais en réalité, les trois systèmes coexistent, tu vois. Et ils continuent à coexister aujourd'hui. Et l'état d'urgence, c'est intéressant et en même temps complètement réactionnaire, parce que l'état d'urgence, c'est un retour de l'arbitraire du féodal, tu vois, c'est-à-dire que tu fracasses des portes, etc., sous la foi. C'est la lettre de cachet du roi, quoi, qui décidait qu'un tel allait être puni, etc., parce que il avait été dénoncé par un autre, et la lettre de cachet, c'était ça, c'est l'arbitraire royal qui tombait tout d'un coup sur un pauvre individu dans une pauvre village, machin, tu vois. Donc, il y a le féodal qui réintervient avec ce côté arbitraire ou tel disciplinaire. C'est-à-dire, attention, on vous surveille, restez dans le cadre, ne sortez pas, il y a une forme de couvre-feu. Certaines choses que vous avez le droit de faire, vous n'avez pas le droit de manifester. Ça, c'est du disciplinaire. Interdiction de manifester, pour la COP, on revient à un régime disciplinaire. Ce qui, normalement, n'est plus valable dans le régime de pouvoir où on est, parce qu'on considère que c'est une atteinte insupportable à la liberté. Et ce qui est vrai, tu vois. Et puis, alors, le régime de contrôle qui, pour moi, arrive au régime de trace. Moi, j'appelle ça la société de trace maintenant, parce que j'ai envie de dire, l'opto-électronique qui déploie la société de contrôle à un niveau de finesse qu'on n'avait jamais atteint. C'est-à-dire que n'importe quel site visité sur Internet, mail envoyé, coup de fil, etc., peut être recueilli, orpaillé, data miné, stocké, archivé et réutilisé contre toi à n'importe quel moment. Si tu veux, ça te donne un pouvoir sur la vie quotidienne des gens qu'on n'a jamais eu, qu'aucun régime dans aucune société mondiale humaine n'a jamais eu. C'est-à-dire qu'on a un domaine illimité de contrôle humain. Voilà. Donc moi, je mets ça sur cette trace. Voilà. Et ça fait super peur parce qu'on s'est donné les moyens, on s'est donné le pouvoir de faire ça, quoi, tu vois. Et le régime d'urgence, c'est pareil, l'état d'urgence, comme ils utilisent énormément les big data, les systèmes, les appels, c'est-à-dire que tu peux perquisitionner, tu peux surtout aller voir les connexions, etc. C'est-à-dire que tu peux farfouiller dans la vie quotidienne des gens, parce que nos mails, c'est notre vie quotidienne, c'est nos rapports amoureux, c'est nos rapports amicaux, c'est nos rapports familiaux. Je veux dire, pouvoir savoir ce que j'ai dit au téléphone, pouvoir lire mes mails, etc., c'est rentrer dans mon âme. Enfin, tu vois, faut dire les choses, quoi. Et beaucoup mieux qu'une caméra qui te filme dans un métro, enfin, tu vois. C'est pour ça que la caméra, c'est débile, parce que c'est très extérieur. Un mail, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir les mails. Bon. Donc, du coup, voilà, là, on est sur l'aboutissement du régime de contrôle. Donc, l'état d'urgence, c'est la réactivation de ces trois pouvoirs à la fois. Donc, c'est une forme de totalitarisme pour moi, parce que tu réactives les trois en même temps. Voilà. Sauf qu'il y a un côté très réactionnaire qui normalement va pas durer, qui est le côté disciplinaire, interdiction de manifester. Ouais. Sauf qu'il y a un côté féodal sur lequel normalement les gens veulent hurler et on espère et dire attendez, c'est n'importe quoi. Mais par contre, le régime de la trace que ça implique et que ça libère, parce que normalement, t'as le droit, pour faire ça, il faut des perquisitions, il faut des droits de perquisition, il faut demander au tribunal le droit d'écouter telle ou telle personne, tel ou tel portable. Et tu comprends la police. Oui, c'est lourd, parce qu'à chaque fois, il faut demander, c'est l'administratif, etc. Là, les policiers, c'est génial. Pour eux, c'est leur rêve. L'état d'urgence, c'est leur rêve. Enfin, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Libre. À n'importe quel moment, ils sont libres. Et enfin, ils sont plus bloqués par ces putains de règles de droit démocratique qui nous empêchent de bosser. Enfin, tu vois. Et moi, je les comprends, les flics, quoi. Tu vois, à un moment donné, c'est bon, quoi. Tu vois, ils ont envie d'y aller et puis tu vois ça se comprend très bien au niveau affectif tu vois mais voilà et t'as l'urgence mais bon après si tu veux ce qui est intéressant aussi c'est qu'on revient à des vecteurs anciens c'est-à-dire que c'est Virilio il avait dit un terme que j'adore c'est la gestion des petites terreurs quotidiennes tu vois il disait l'information le 20h etc c'est la gestion des petites terreurs on suscite des petites terreurs quotidiennement réactivées pour que surtout que les gens bougent pas et qu'à partir du système de la peur on obtienne un besoin de sécurité un désir de sécurité une envie de confort une envie de protection etc. Et ça, ils l'ont très bien utilisé, ils l'ont très bien réutilisé. Donc les gens, ils sont là, ils sont terrorisés parce qu'on a 130 morts. Je veux dire, il y a des pays où c'est tous les jours 130 morts comme ça. Nous, voilà, ça nous arrive jamais. Donc on est là, on est complètement... et on utilise le régime de la peur et ça marche super. Moi, j'étais étonné. Hein. Quand ils ont passé les mesures d'état d'urgence et que 91% des Français sont pour, toi, je pensais qu'en France, quand même, on avait une capacité de résistance à ces types de schémas peur-sécurité qui était plus fort. Ah, ça m'a fait mal, tu vois, là, ça m'a fait mal. Ça m'a fait chier, quand même, tu vois. Parce que moi, je suis très, très français, très pro-français. J'adore, en un sens, j'ai envie de dire, je suis très patriote au sens où je considère qu'on est un pays extraordinaire en termes de puissance créative, en termes d'intelligence, en termes de... Et de voir que là, on se faisait quand même bien, bien entubé.
Bien anusé.
Ouais, ouais, bien anusé. Ça m'a bien, bien énervé quand même, tu vois. Mais bon, avec le recul, déjà, on voit que ça y est.
Et alors,
la résistance sociale revient.
On va finir sur la résistance. Il y a une des formes, tu dis que ce que la technologie nous a enlevé, c'est notre rapport, c'est le rapport au corps et surtout le rapport au sens autre que le visuel, qu'on est dans une technologie très optique, très visuelle. Et que l'une des formes de résistance que tu préfères, c'est le son. Mm-hmm. Le son que tu développes dans ce livre qui va...
Dans Phonophore, le projet. Un projet de création sonore autour d'un univers, autour du roman qui n'est toujours pas écrit, quoi, où j'ai fait un premier chapitre. On a développé l'imaginaire par le son.
Et donc pourquoi le son très rapidement serait une forme de résistance, tu vois, parce que c'est vrai que nous ici quand on a fait le site, tu vois, on est là tous les deux, on discute, à la rigueur ça n'apporte pas grand chose, même si ta réalisation
non,
est vraiment
l'image,
très belle. Voilà, est-ce que
ouais, c'est bien.
Bien.
Tu veux venir à ma place maintenant.
Non, mais voilà, pourquoi est-ce que le son...
Pourquoi c'est marrant, il y a des raisons neurologiques, il y a des raisons d'efficacité médiatique, capitale, etc. C'est que, bon, en tout cas, ce qu'on nous explique au niveau neurologique, c'est que quand tu fermes les yeux, admettons, t'es le matin, tu somnoles, quand tu ouvres les yeux, tu mobilises 70 à 80% de ton fonctionnement cérébral par la vision. Donc c'est le sens ultra dominant chez nous, lié à la chasse, lié à la prédation, lié à la perception du danger, etc. On a été construit comme ça. Bon, donc du coup, le capitaliste qui va toujours au plus efficace, au plus performant, a décidé d'utiliser ce sens en priorité. Donc a décidé de faire de l'image, de la production d'image, le sens numéro un de manipulation, donc de manipulation vers l'acte d'achat, vers la consommation, etc. Puisque c'est le régime dans lequel on est, c'est un régime qui ne fait pas voter, mais qui fait acheter. Donc, ben c'est pareil pour faire voter, hein, c'est les mêmes processus, etc. Mais là, voilà, donc on a utilisé l'optique. Voilà, on a utilisé le visuel. Du coup, pour moi, depuis 30, 40 ans, etc., on est absolument saturé d'images. Tous les tests qui sont faits, quand il y a des tests scientifiques, etc., ils nous disent qu'en ville comme à Paris, vraiment, tu te balades, tu as à peu près 3000 contacts visuels jour sur des publicités. Tu vois, donc je n'explique pas sur Internet, machin, on doit peut-être être à 5000, j'en sais rien. Donc saturation complète d'images, saturation. Et ces images, pour moi, font écran un imaginaire autre. C'est-à-dire qu'elles viennent occuper la place que l'imaginaire devrait occuper. Tu vois. L'imaginaire, c'est une capacité à poser des sensations, des perceptions qui ne sont pas là devant toi, que tu n'as pas produites encore. Quoi, tu vois. Et donc, elle s'élance vers un dehors, vers un vide, que vient boucher l'image. Voilà. Et du coup, le son, moi, m'intéresse beaucoup parce que justement, le son te fait produire de l'image et te fait produire tes images. Tu vois. C'est-à-dire que l'imaginaire, pour moi, c'est la capacité à produire toi-même tes images. On revient à l'histoire de pouvoir et puissance. Tu vois, la publicité, elle a le pouvoir d'imposer une image. Ta puissance, c'est la puissance de toi fabriquer ton image, tu vois, donc d'imaginer, voilà, c'est vraiment ça. Et le son est un porteur extraordinaire, enfin pour moi, un support et un vecteur extraordinaire pour ça, voilà, Et du coup, ça fait fonctionner cette fabrique d'images qu'on a en nous, quoi, tu vois, et ça nous permet de déployer quelque chose beaucoup plus librement, sans qu'on nous impose la façon dont la scène doit être posée, dont l'esthétique doit être posée, Et puis après, c'est des versions personnelles, c'est-à-dire que moi, c'est vrai que tu vois, sur tous mes romans, sur tous mes univers, il y a eu beaucoup d'images produites, par exemple, sur la Horde. Ça ne m'a jamais intéressé. Ouais. Pour moi, ça assèche l'imaginaire que j'en avais, ça assèche l'univers des personnages. Par contre, tout ce qui a été voix, son, déploie l'univers de la Horde, déploie le... Donc voilà. Donc pour moi, c'est une forme de résistance, oui, au tout spéculaire, quoi, tu vois, au tout optique, quoi, au panoptique, justement. C'est une forme de résistance à ça, quoi. Et il me semble que comme c'est un vecteur qui est encore assez peu exploré, on manipule, évidemment, il y a la musique, on manipule le son, on manipule le design sonore, etc. Mais je trouve de façon moins encore, pas encore trop forte, ça reste relativement libre, ça a moins été exploré, ça a moins été calibré, c'est moins normé, etc. Donc il me semble que le champ de liberté est plus fort, voilà, il est plus fort dans le son.
D'accord.
Voilà. Et puis il y a une sensualité différente. sais, c'est un art froid, l'image, hein, l'image pure. Hein, je veux dire, c'est voilà, c'est à distance, c'est quelque chose qui a... Déjà, le son, ben, le son, pour qu'il fonctionne, il faut que... Il rentre dans ton oreille, il fasse vibrer les tympans, il fasse vibrer le corps, il y a l'ensemble vibratoire qui est en toi. Il parle déjà au corps, quoi, tu vois. Donc, il y a une sensualité déjà beaucoup plus grande, une voix, d'une présence sonore, quoi. Donc,
oui, mais
ça m'intéresse plus. C'est-à-dire qu'on rematérialise un certain nombre de choses. Moi, je trouve qu'on souffre d'un excès de dématérialisation, quoi. C'est le problème du numérique. Et qu'il y a le retour au corps, il n'est pas de refus, il n'est pas de trop, quoi, tu vois. Donc, du coup, je suis content sur le sonore. Je trouve que ça amène ça aussi. Ouais.
D'accord. Bon, j'aurais aimé poser encore plein de questions, mais tu vas être...
Tu feras un tome 2.
Ouais, on fera un tome 2 et on va poser un écran noir et peut-être on va juste continuer là. Mais non, on va pas te mettre au chômage. Bon, merci beaucoup Alain Damasio, je suis vraiment... peut-être qu'on fera un tome 2 parce qu'il y avait
vraiment... Ouais, non mais franchement, bien sûr, avec plaisir.
C'était drôlement déjà bien. Thank you.